Chapitre 10. Nous partons pour l'hôpital, annonça Nicole. Les autres terminaient leur petit déjeuner.
Asseyez-vous et finissez votre café.
J'ai promis au docteur Bleu que nous arriverions de bonne heure. Le raid d'hier a fait de nombreuses victimes.
Tu travailles trop, maman, dit Patrick,
et tu ne dors pas assez. Comme ça, je n'ai pas le temps de me morfondre.
En route, maman, dit Benji en venant lui tendre son manteau. Il sourit et salua de la main les jumeaux dont le calme pouvait surprendre. Galilée fit une grimace. Benji et Kepler rirent.
Elle s'occupe l'esprit pour éviter de penser à la mort de Cathy,
dit Nai après leur départ.
Ça m'inquiète. Tôt ou tard.
Elle a peur,
dit Éponine.
Pour son cœur ou sa santé mentale, elle refuse de regarder la réalité en face.
Tu te prends encore pour une psy,
dit Max.
Ne t'en fais pas pour Nicole, elle est plus forte que nous. Elle pleurera sa fille quand elle estimera qu'elle peut se le permettre.
Maman n'est pas retournée visionner les images des quadroïdes depuis sa crise cardiaque. Quand le docteur Bleu lui a parlé de ce qu'avait fait Cathy, j'ai cru qu'elle voudrait la voir une dernière fois, ou tout au moins avoir des nouvelles d'Ali.
Patrick, ta sœur a fait une sacrée bonne chose en tuant ce salopard,
dit Max.
Quoi qu'on puisse raconter sur son compte, elle a eu du courage.
Elle avait de nombreuses qualités. Elle était brillante, charmante. Mais il y avait l'autre facette de sa personnalité. Éponine ouvrait la bouche pour dire quelque chose quand ils remarquèrent un halo lumineux dans le vestibule.
« Oh oh !»
fit-elle en se levant.
« Les raids reprennent. Je vais emmener Marius à côté. »
Nai se tourna vers ses enfants.
« Terminez rapidement, les garçons. Nous allons dans l'abri que Max nous a aménagé. »
Galilée grimaça une fois de plus.
« Encore ?»
gémit-il. Nicole et Benji venaient d'atteindre l'hôpital quand les premières bombes churent au travers du dôme. Ils subissaient de tels bombardements chaque jour, et plus de la moitié de la couverture de la cité d'Émeraude avait été détruite. Les explosions avaient dévasté la plupart des quartiers de la ville. Le docteur Bleu envoya immédiatement Benji aux admissions.
« C'est terrible, »
dit l'octopode.
« Nous déplorons plus de 200 morts uniquement pour la journée d'hier. »
« Et que se passe-t-il au Nouvel Éden ?» demanda Nicole.
« L'épidémie se répand plus lentement que prévu, mais ses effets commencent à se faire sentir et le maître optimiseur pense que les raids devraient s'interrompre sous peu. Il prépare la prochaine offensive. »
« Les colons ne poursuivront pas cette guerre, à présent que Nakamura est mort. »
« J'espère que vous avez raison, mais nous devons nous tenir prêts à toute éventualité. »
Il suivait le couloir quand un autre médecin les aborda. Cet octopode que Benji avait baptisé Penny décrivit au docteur Bleu les scènes d'horreur qu'il avait vues dans le domaine de l'alternative. Il l'informa en outre qu'il fallait envoyer là-bas du personnel et du matériel. Le docteur Bleu tenta d'expliquer qu'ils n'étaient même pas assez nombreux pour s'occuper de tous les blessés admis à l'hôpital.
« Je pourrais l'accompagner, »
proposa Nicole. Le docteur Bleu regarda son amie humaine.
« Vous vous en sentez le courage ? À ce qu'on raconte, c'est vraiment épouvantable là-bas.
J'ai repris des forces et je veux être utile. »
Le docteur Bleu déclara qu'elle pourrait se passer de Nicole pendant un ter et ils allèrent prendre l'autobus. Pendant le trajet, le médecin octopode lui fournit des précisions sur la situation dans le domaine de l'alternative.
On transporte les blessés dans les rares immeubles toujours debout où ils sont examinés et soignés sommairement avant leur transfert à l'hôpital. Tout empire chaque jour. De nombreux alternatifs ont renoncé à l'espoir.
Sous la clarté de quelques lucioles disséminées, Nicole voyait de toutes parts des scènes de destruction. Pour ouvrir la porte sud, les gardes durent repousser 2 douzaines d'alternatifs, dont plusieurs blessés, qui réclamaient l'accès à la cité. Au-delà, la dévastation était encore plus grande. Le théâtre où ils avaient assisté à la représentation de la pièce édifiante était en ruine. Plus de la moitié des bâtiments du quartier des artistes avaient été rasés.
J'ignorais que c'était catastrophique à ce point,
se disait Nicole quand une bombe explosa au-dessus de leur véhicule. Le souffle la projeta sur la chaussée. Étourdie, elle se releva lentement. L'autobus avait été sectionné en 2. Penny était ensevelie sous les débris. Nicole tenta de le dégager avant de comprendre que ses efforts étaient vains. Il y eut une autre déflagration à proximité. Elle prit sa trousse médicale et s'éloigna en titubant à la recherche d'un abri. Un octopode gisait au milieu de la chaussée. Elle se pencha et sortit une lampe de son sac. La lentille de cet être était laiteuse. Elle le fit rouler de côté et vit la blessure sur sa nuque. Une substance blanchâtre avait coulé de la plaie béante. Nicole eut des hauts le cœur. Une bombe rasa un immeuble à moins de 200 mètres. Nicole se releva et repartit. Elle trouva une petite remise, mais elle était déjà occupée par une demi-douzaine de saucisses qui la chassèrent. L'une d'elles la poursuivit en tentant de happer ses talons. Lorsque la créature eut renoncé, Nicole s'arrêta pour reprendre haleine. Le raid s'interrompit et le brusque silence lui parut surnaturel. Devant elle, à une centaine de mètres, une luciole voltait au-dessus d'un bâtiment apparemment intact. Elle vit 2 octopodes, dont un blessé, y entrer.
C'est probablement un centre de soins improvisé,
se dit-elle. Elle partit dans cette direction. Quelques secondes plus tard, un son étrange attira son attention. Ce fut seulement lorsqu'elle l'entendit une deuxième fois qu'elle s'arrêta et frissonna.
Les pleurs d'un bébé, est-ce le fruit de mon imagination?
Elle scruta la pénombre vers le point d'origine des cris et discerna un grillage en partie renversé à une 40aine de mètres dans une rue transversale. Nicole regarda l'immeuble proche.
« Les octos ont besoin de moi, mais je... »
Les plaintes s'élevèrent, plus nettes et indéniablement humaines. Elle enjamba la clôture et vit une pancarte sur le sol. Elle s'agenouilla et sentit son cœur s'emballer en lisant les couleurs du mot « zoo ».
Richard était dans le parc zoologique lorsqu'il a entendu un bébé pleurer.
Il y avait de nouvelles explosions. Les hélicoptères revenaient. Nicole se dirigea vers le point d'origine des cris. Une bombe tomba à moins de 100 mètres et les pleurs s'interrompirent.
« Oh non, pas maintenant !»
Elle se souvint qu'elle avait dit à Richard.
« C'est certainement un animal. »
Les seuls sons audibles étaient désormais les sifflements de sa respiration.
« Que dois-je faire ? Poursuivre mes recherches ou rebrousser chemin ?»
Elle entendit les gémissements et repartit le plus vite possible.
« Non, je ne peux pas me tromper. Il s'agit bien d'un bébé. »
Elle franchit une seconde barrière et remarqua des mouvements au sein des ombres. L'enfant était assis sur le sol, à côté d'une humaine, sans doute sa mère, qui gisait face contre terre dans une flaque de sang. Après avoir obtenu la confirmation que la femme avait cessé de vivre, Nicole prit le nourrisson brun. Surpris, il se débattit et hurla. Elle le cala contre son épaule et lui tapota doucement le dos.
« Là, là, tout va s'arranger. »
Il était vêtu de 2 sacs ensanglantés percés de trous pour ses membres. Malgré ses protestations, elle l'examina rapidement. À l'exception d'une égratignure sur une jambe et de la crasse qui couvrait tout son corps, la fillette semblait indemne. Nicole estima qu'elle devait avoir approximativement 1 an. Elle la posa sur un linge sorti de sa trousse et fit sa toilette. L'enfant sursautait à chaque nouvelle explosion et Nicole tenta de la rassurer en lui chantant la berceuse de Brahms. Ce fut efficace. La petite fille la fixa en écarquillant ses grands yeux bleus et ne protesta pas pendant qu'elle utilisait un tampon humide pour la débarrasser d'une épaisse couche de crasse. Mais quand Nicole souleva la toile à sac et vit un collier de ficelle suspendu à son cou, le bébé se remit à pleurer. Elle le prit dans ses bras et se releva.
« Il doit avoir faim, et il y a certainement de la nourriture dans les parages. »
Sous un surplomb rocheux, elle trouva un récipient plein d'eau, divers objets à l'utilité inconnue, une natte et d'autres sacs. Nicole tenta en vain de faire boire la fillette, puis elle eut une idée. Elle retourna vers le cadavre de la mère et s'assura qu'elle avait encore du lait. La femme était morte depuis peu et Nicole la redressa contre elle, puis plaça le nourrisson sur un sein afin qu'il pût téter. L'enfant avait grand faim. Quand une explosion révéla les traits de la défunte, Nicole reconnut le visage qu'elle avait vu sur la fresque de la place des artistes.
Ce n'était donc pas mon imagination.
Repu, la fillette s'endormit et Nicole l'enveloppa dans un sac propre, puis la posa doucement sur le sol. Elle examina ensuite le cadavre de la mère. À en juger par les plaies béantes du ventre et de la cuisse, elle avait dû être atteinte par deux éclats de bombe et se vider de son sang. Pendant qu'elle étudiait la blessure de la jambe, Nicole toucha un étrange renflement sur la fesse droite. Intriguée, elle souleva légèrement le corps et palpa la protubérance. Un objet dur était inséré sous la peau. Elle prit des ciseaux dans sa trousse et incisa l'épiderme. Elle retira une chose argentée, ayant la forme et les dimensions d'un petit cigare. Déconcertée, elle la regarda sous tous les angles en tentant de déterminer de quoi il s'agissait.
C'est probablement une sorte de dispositif d'identification,
se disait-elle quand une déflagration proche réveilla l'enfant. Le raid s'intensifiait du côté de la cité d'Émeraude. Une sphère ignée monta vers le ciel pendant qu'un cratère se creusait dans le sol. La lueur permit à Nicole de constater qu'elle se trouvait sur une petite éminence à la bordure du domaine de l'alternative, à moins d'une centaine de mètres de la plaine centrale. Elle se redressa avec la fillette sur l'épaule, au bord de l'épuisement.
« Nous irons là-bas, loin de toutes ces bombes »,
expliqua-t-elle au bébé en tendant le doigt. Elle fourra l'objet cylindrique dans sa mallette et prit deux sacs propres en se disant
« Ils la protégeront du froid ». Il lui fallut plus d'une heure pour atteindre un point où elle s'estima en sécurité.
Elle s'allongea sur le dos, la fillette couchée sur sa poitrine, et s'endormit sitôt après avoir couvert l'enfant avec les sacs. Un mouvement du bébé la réveilla. Elle s'assit et le changea en prenant un linge propre dans sa trousse. Il l'observa en écarquillant ses grands yeux bleus qui brillaient de curiosité.
« Bonjour, petite fille, »
lui dit Nicole. Et l'enfant sourit pour la première fois. Les lucioles illuminaient la cité d'Émeraude et la clarté qui filtrait par les trous béants du dôme révélait le secteur environnant de Rama.
La guerre a dû cesser, ou tout au moins les raids. Autrement, il n'y aurait pas tant de lumière.
Elle se leva et s'étira, après avoir glissé la fillette dans un sac propre.
« Ma jeune amie, le moment est venu de partir au-devant de nouvelles aventures. »
Le bébé rampa hors du sac. Nicole le ramena à son point de départ. Il recommença. Elle avait des difficultés à récupérer tous ses biens avec le petit enfant dans les bras, mais elle put finalement repartir vers la civilisation. Elle était à environ 300 mètres des premiers bâtiments du domaine de l'alternative quand Nicole décida de faire un détour par l'hôpital pour voir le docteur Bleu. S'il était exact que la guerre avait pris fin, ou qu'il y avait eu une suspension des hostilités, elle consacrerait la matinée à se renseigner sur les origines de la fillette.
Qui étaient ses parents? Et quand les octopodes les ont-ils enlevés?
Elle était en colère.
Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qu'il y avait d'autres humains ici?
Demanderait-elle au maître optimiseur.
Et comment justifiez-vous la façon dont vous avez traité ce bébé et sa mère?
Un bébé qui ne restait pas en place.
Nicole décida de s'accorder un peu de repos.
Pendant que l'enfant jouait sur le sol, elle parcourut du regard les ruines du domaine de l'alternative et dans le lointain de la cité d'Émeraude. La tristesse l'envahit.
Pourquoi?
Une image de Cathy se forma dans son esprit, mais elle la chassa.
5 minutes plus tard, elle remarquait un sifflement.
Le son venait du ciel.
Nicole sentit son pouls s'emballer et se leva d'un bond.
« Regarde !»
cria-t-elle à l'enfant.
« Regarde là-bas !»
Des volutes lumineuses colorées dansaient autour de la pointe de la grande corne, l'énorme tour qui se dressait au centre de la cuvette australe de Rama.
Les banderoles s'amalgamèrent en un anneau qui cernait le sommet de la structure démesurée.
Peu après, le cercle rouge s'éloignait lentement vers le nord, le long de l'axe de rotation du vaisseau cylindrique.
Des rubans orangés voltèrent autour de la grande corne, puis fusionnèrent et suivirent le rond écarlate dans le ciel raméen.
Le sifflement se poursuivait, presque musical.
« Il va se passer quelque chose, »
dit-elle à la fillette.
« Quelque chose de formidable. »
Le bébé ne pouvait comprendre, mais il rit quand Nicole le prit à bout de bras pour le faire sauter en l'air. Il s'intéressa aux anneaux jaunes et verts qui traversaient la nuit. Le rouge était déjà au-dessus de la mer cylindrique.
Nicole fit encore sauter l'enfant qui faillit perdre son collier.
Nicole la rattrapa et la serra contre elle.
« J'avais oublié cet objet. Je peux le regarder à présent que nous bénéficions d'un peu de lumière. »
Un disque de bois d'environ 4 cm de diamètre était suspendu à la ficelle. On y avait gravé la silhouette d'un homme, aux bras levés, cerné par ce qui évoquait des flammes. Nicole avait vu le même motif sur le bureau de Michael O'Toole, bien des années plus tôt.
« Saint-Michel de Sienne !»
se dit-elle en retournant l'objet. Au dos avait été écrit « Maria ».
« C'est certainement ton prénom !»
dit-elle au bébé.
« Maria !» « Maria !»
Mais la fillette se contenta de froncer les sourcils. Nicole rit et la fit sauter une fois de plus. Puis elle la posa sur le sol et la surveilla, tout en admirant les cercles multicolores dans le ciel raméen. Il y en avait 8, à présent. Dès que le rouge eut disparu dans la cuvette boréale, un autre de même couleur se forma à l'extrémité de la grande corne.
« Comme il y a tant d'années !»
se dit-elle, tout en explorant ses souvenirs, pour tenter de dresser la liste des disparitions signalé dans le Nouvel Éden.
Quelques canots ont chaviré sur le lac Shakespeare et un patient de l'hôpital psychiatrique d'Avalon a disparu, mais aucun couple. Et qu'est devenu le père?
Les questions qu'elle poserait aux octopodes étaient de plus en plus nombreuses. La vision de ces anneaux lui rappela le jour où ils avaient tant fasciné Cathy, alors âgée de 10 ou 11 ans, qu'elle en avait hurlé de joie.
Elle était tellement spontanée. J'imaginais pour elle un avenir bien différent de celui qu'elle a eu.
Elle essuya ses larmes et reporta son attention sur Maria qui mettait des poignées de terre dans sa bouche.
« Non, Maria !»
lui ordonna-t-elle en tapotant sa main.
« C'est sale !»
La fillette grimaça et se mit à pleurer.
Comme Cathy. Elle ne supportait pas que je lui interdise quoi que ce soit.
Elle la revit bébé, puis adolescente, au point nodal, et finalement jeune femme, au Nouvel Éden. Une violente migraine accompagna ces images de sa fille décédée. Des sanglots l'ébranlèrent.
Oh, Cathy. Pourquoi? Pourquoi?
Elle enfouit son visage entre ses paumes. Maria interrompit ses pleurs pour lui adresser un regard intrigué.
Ne vous tourmentez pas, Nicole. Vos épreuves seront bientôt terminées.
La voix s'était élevée dans son dos et elle pensa à un tour joué par son imagination. Elle se tourna lentement vers l'aigle qui approchait en lui tendant les bras. Le troisième anneau rouge atteignit la cuvette boréale. Il ne s'en forma pas d'autre autour de la grande corne.
« Rama va s'illuminer ?»
demanda-t-elle à l'aigle.
« Votre mémoire est excellente. »
Nicole tenait Maria dans ses bras. Elle l'embrassa sur la joue et la fillette sourit.
« Merci pour elle, »
dit Nicole.
« De quoi parlez-vous ? Si vous l'avez découverte, nous n'y sommes pour rien. »
Elle le fixa. Ses yeux étaient très expressifs, mais elle n'aurait pu dire s'il se moquait d'elle ou non. Qu'elle eût trouvé cet enfant juste après le suicide de Cathy ne pouvait être une simple coïncidence.
« Tu manques d'ouverture d'esprit »,
lui avait reproché Richard lors de leur séjour au point nodal.
« Ce n'est pas parce que l'aigle n'est pas fait de chair et de sang, comme nous, qu'il n'est pas vivant. C'est un robot, d'accord, mais cela ne l'empêche pas d'être intelligent et subtil. » Vous êtes donc resté caché à bord pendant toutes ces années ?
Non,
répondit-il sans fournir d'explication.
Il est impossible que nous ayons atteint le point nodal ou une station comparable, et je doute que vous soyez venu me rendre une visite de courtoisie. Allez-vous me dire ce que vous faites ici ?
J'agis dans le cadre d'une intercession du deuxième degré. Nous avons dû renoncer à notre rôle de simple observateur.
Entendu. Je saisis le principe. Mais que va-t-il se passer à présent?
Tous vont s'endormir.
Et après leur réveil?
Je ne peux vous en dire plus.
Nicole se tourna vers la cité d'Émeraude et leva les bras vers le ciel. Il ne restait que trois anneaux dans le lointain, au-dessus de l'hémicylindre nord.
Pour satisfaire ma curiosité, pourquoi n'êtes-vous pas intervenu plus tôt, avant tout ceci, avant cette hécatombe ?
L'aigle ne répondit pas immédiatement.
Il y a une incompatibilité entre le libre arbitre et une force supérieure qui se chargerait de vous protéger contre vous-même.
Aurais-je abordé un thème religieux ?
Pas vraiment. Notre objectif est d'établir un répertoire de toutes les espèces spatio-pérégrines de ce secteur de la galaxie. Nous ne sommes pas des juges, mais des scientifiques. Peu nous importe que vous ayez des tendances autodestructrices. Ce qui compte à nos yeux, c'est que nos efforts se justifient.
Seriez-vous en train de me dire que ce n'est pas pour interrompre l'effusion de sang que vous avez décidé d'intervenir ?
En effet, mais je ne peux m'étendre sur ce sujet, car le temps presse. Rama s'illuminera dans 2 minutes, et vous vous endormirez 60 secondes plus tard. Alors si vous voulez faire vos adieux à cet enfant...
Allons-nous mourir ?
Demanda-t-elle brusquement. Effrayé,
pas dans l'immédiat, mais je ne puis garantir que tous se réveilleront dans leur long sommeil.
Nicole s'agenouilla à côté de Maria. Des moustaches de poussière humide indiquaient qu'elle avait ingéré une autre poignée de terre. Nicole essuya doucement ses lèvres et lui présenta une timbale d'eau. La fillette en but une gorgée et du liquide coula sur son menton. Nicole sourit et lui chatouilla le cou. Les rires du bébé rompirent le silence, les rires purs et magiques de la tendre enfance. Nicole en fut si émue que des larmes brouillèrent sa vision.
« Même si c'est le dernier son que j'entends, je puis m'estimer satisfaite. »
Brusquement, tout Rama fut nimbé de lumière. C'était un spectacle impressionnant. La grande corne et les 6 bâtiments adjacents, reliés par des arcs-boutants massifs, emplissaient le ciel.
« 60 secondes ?»
demanda-t-elle. L'homme-oiseau hocha la tête. Nicole se pencha et prit l'enfant dans ses bras.
« Rien de ce qui t'est récemment arrivé n'a un sens, Maria. Mais je veux que tu saches que tu comptes déjà beaucoup pour moi et que je t'aime très fort. »
Elle crut lire de la sagesse dans les yeux de la fillette qui inclina la tête pour la laisser reposer sur son épaule. Pendant quelques secondes, Nicole ne sut que faire, puis elle lui caressa le dos en fredonnant la berceuse de Brahms.